Kiosque Magazine.
Jeudi 15 janvier. Enfin, quand je dis 15 janvier, je ne suis pas sûr puisqu'il se pourrait que le calendrier ait gelé un peu avant minuit hier soir. Alors, on pourrait être encore le 14, c'est à vérifier. Comme nous sommes le jeudi, comme vous écoutez Kiosque Magazine, nous allons, et quand je dis nous, je parle de Éric Desbelleval et moi-même, François Brodeur, vous parler d'économie et d'emploi. Un programme particulièrement chargé cette semaine, Éric.
Oui, on va commencer par se demander si l'allongement de la durée de la vie est un progrès. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette provocation? Ben oui, mais on peut s'étonner, par exemple, que l'allongement de la vie qui a été obtenu depuis une trentaine d'années correspond, tenez-vous bien, à 3h30 par jour, enfin en Occident bien entendu, et bien c'est exactement l'augmentation du temps passé devant la télévision, soit une activité complètement inutile. Bref, à quoi bon vivre davantage si c'est pour regarder la télévision? Enfin, on s'intéressera aussi au coût de la chose. Alors ensuite, on ira en Russie. Moi, je voudrais qu'on s'intéresse aux conséquences mondiales de l'isolement de la Russie. Il me semble que c'est une des affaires majeures de ce début d'année. Bien entendu, il ne faut pas minimiser l'ingérence russe en Ukraine. Mais la réponse qui est apportée par l'Occident sous forme de sanctions est une réponse aux allures de riposte graduée, mais qui ne contient pas de vision en termes de relations internationales à long terme. Punir et isoler n'a jamais réglé le problème de la délinquance, c'est vrai pour les délinquants comme pour les pays. Et puis pour terminer en ce qui me concerne, eh bien on s'occupera un peu de bourse, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. On peut faire une analogie d'ailleurs entre la bourse et le système cardiovasculaire, c'est un peu celui de l'économie. Et il est souvent utile de faire un bilan de santé en début d'année, histoire de voir si on va pouvoir envisager son activité en bonne condition. Que nous disent les prévisionnistes, ces médecins de l'économie, même si certains les ont appelés les médecins de Molière de l'économie? Écoutons, ne serait-ce que par curiosité, ce qu'ils envisagent du côté des valeurs boursières.
Et de mon côté, j'ai une excellente nouvelle pour la plupart d'entre nous. Il semblerait qu'au Québec, on paie à peu près pas d'impôts. On va voir ça, il y a une recherche qui est sortie qui conclut en ce sens-là. J'y crois pas encore, mais je vais quand même vous la donner. On va ensuite en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, parce qu'à l'époque, il était de bon ton de crier haro sur le baudet. Eh bien, si vous avez un puits de pétrole, vous criez haro sur l'Arabie Saoudite et vous l'accusez de tous les maux actuellement, puisqu'on l'accuse d'être responsable de la baisse des prix. On verra ce qu'il en est. Mais d'abord et avant tout, il fallait être sur une autre planète au Québec pour ne pas entendre le ton triomphant du premier ministre Couillard et de Michael Sabia, le président de la Caisse de dépôt, qui nous annonçait que ça y est, la Caisse de dépôt va investir dans les infrastructures au Québec. Qu'en est-il? On verra ça dans quelques instants. J'aurais pu retenir tout plein de textes différents pour vous parler donc de ce mouvement de la Caisse de dépôt invité par le gouvernement du Québec à financer des infrastructures. J'ai choisi ceux du Devoir, particulièrement ceux de François Desjardins et de Jeanne Corriveau. Ça a été publié le 14 janvier. D'abord, François Desjardins, un texte intitulé « Même l'agence de notation DBRS applaudit ». La participation de la Caisse de dépôt et placement dans le développement futur des infrastructures québécoises, résultat d'un souhait que l'établissement ne se cachait pas pour exprimer, est vu par le milieu des affaires comme un vecteur potentiel de relance économique. Alors que la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, les manufacturiers exportateurs du Québec et l'agence de notation DBRS ont salué l'annonce, les partis d'opposition ont cependant ranimé le débat concernant l'indépendance de la Caisse par rapport au gouvernement. Les projets d'investissement qui seront sous la responsabilité de l'institution financière permettront d'encourager l'activité économique au Québec dans le secteur de la construction en particulier, mais également pour tous les fournisseurs du secteur manufacturier, ont estimé les manufacturiers exportateurs du Québec. La qualité de nos infrastructures est une source première de productivité et de compétitivité. Manufacturiers exportateurs du Québec invitent donc le gouvernement du Québec et la Caisse, dans la foulée de cette annonce, à accélérer également les projets relatifs au transport de marchandises, a ajouté le représentant du milieu de la fabrication. La Caisse, dont l'actif net était d'environ 215 milliards de dollars au 30 juin 2014, gère l'argent de plusieurs déposants, comme la Régie des rentes du Québec, l'épargne des employés du secteur public, la CSST, la Société de l'assurance automobile et le secteur de la construction. Le créneau infrastructure atteignait 8 milliards au 31 décembre 2013, conséquence d'une construction de portefeuille à laquelle s'est appliquée la Caisse depuis 2010. Parmi ces investissements des 15 dernières années ont figuré des participations dans Gaz Métro, dans l'autoroute à péage 407 au nord de Toronto, dans les aéroports britanniques, notamment Heathrow, et plus récemment d'un morceau de 25 % du parc éolien en mer London Array, le plus important au monde. Le double argument présenté repose sur une réalisation performante et efficace des projets et de rendement pour la Caisse. La présence de celle-ci fera en sorte que les projets seront tenus à l'écart du bilan financier du gouvernement. La cote de crédit AAA, dont bénéficie la Caisse auprès des agences de notation, d'ailleurs, lui permet d'emprunter à plus faible coût que Québec dans le marché obligataire. Et j'ouvre une parenthèse ici, c'est facile pour la Caisse qui n'a pas à emprunter par définition puisqu'elle est une caisse de dépôt. L'entente s'inscrit dans la stratégie de la Caisse de faire croître ses placements privés, notamment en infrastructure, dans un contexte de faible taux d'intérêt, a écrit l'agence de notation DBRS dans une analyse transmise au Devoir. Elle ne voit aucune menace à l'autonomie de la Caisse. De plus, cela permet à la Caisse de maximiser sa vision du marché québécois et de répondre aux besoins en infrastructure au Québec. Les deux premiers projets évoqués sont ceux d'un lien de transport en commun entre le centre-ville, l'aéroport Montréal-Trudeau et l'ouest de l'île, et la construction d'un nouveau pont Champlain. L'échéancier serait de 5 ans et le financement est estimé à 5 milliards. Québec et la Caisse auront chacun un rôle à jouer dans la planification, mais la réalisation, le financement et l'exploitation appartiendront à la Caisse. L'annonce qui doit maintenant passer par un vote à l'Assemblée nationale pour modifier le plafond de 30 % qui limite les investissements de la Caisse dans les projets pourrait bénéficier à plusieurs firmes québécoises, selon l'analyste de valeurs mobilières Desjardins. Si les projets proposés vont de l'avant, nous croyons que les bénéficiaires initiaux pourraient être des entreprises comme WSP, ça c'est l'ancienne Genivar, et Stantec, qui est, elle, l'ancienne Dessau. Ils ont tous changé de nom depuis la commission Charbonneau, a écrit l'analyste Benoît Poirier dans une note aux clients de Desjardins. Il a également mentionné le groupe Aecon et SNC-Lavalin, qui a participé au système léger sur rail à Vancouver et à Ottawa, et le spécialiste ferroviaire Bombardier. Le président de la Caisse, Michael Sabia, a déjà parlé très ouvertement du rôle que la Caisse proposait de jouer dans le secteur des infrastructures. En juin 2012, lors d'une allocution au Cercle canadien, il a clairement décrit ce souhait. La Caisse est très intéressée au projet du nouveau pont Champlain. Notre idée est simple, nous pourrions en financer la construction. Et en transitant par le pont, par le péage, des centaines de milliers de personnes contribueraient à faire fructifier leur régime de retraite. Chaque jour. Ce qui serait bénéfique pour les rendements de nos déposants et pour l'économie québécoise, avait dit M. Sabia. Ceci dit, c'est quand même pas l'unanimité, puisque je vous le rappelle, le premier mandat de la Caisse de dépôt est de faire fructifier les avoirs de retraite des Québécois. Donc, son indépendance était sacrée et on peut se demander justement qu'est-ce qui va attenter à cette indépendance-là dans la manœuvre si le premier ministre a la possibilité de pousser des projets auprès du président de la Caisse. Et il y a eu des critiques de publier. Je note notamment celle publiée dans le texte de Jeanne Corriveau. La confiance affichée par Michael Sabia ne convainc pas Germain Belzile, maître d'enseignement au département d'économie appliquée HEC Montréal. J'ai des inquiétudes. La Caisse de dépôt administre le bas de laine des Québécois. Ce qu'on veut, c'est du rendement. On a même changé le mandat de la Caisse pour éviter les interventions politiques, car le danger, c'est qu'on demande à la Caisse de faire de mauvais investissements parce qu'au niveau politique, c'est rentable pour les politiciens. S'il veut bien laisser la chance aux coureurs, M. Belzile estime que l'entente présentée mardi comporte encore beaucoup de zones d'ombre. De l'extérieur, ça semble drôlement une commande politique, dit-il. Et c'est un peu étonnant parce qu'on était allé chercher Michael Sabia. Il devait avoir la pleine autonomie avec un mandat très précis de faire fructifier les avoirs qu'on lui confie. Et on pourrait rappeler ici justement le rôle que, par exemple, dans la relation entre Hydro-Québec et le gouvernement, ce que ça fait en sorte, c'est qu'Hydro-Québec est toujours coincé pour réaliser des projets qui sont des commandes politiques, et ce qui nuit à la rentabilité d'Hydro-Québec actuellement d'ailleurs. Alors, le débat est sur la table, il faudra voir comment ça évolue. Paul Piché, dans une de ses chansons, posait une question fondamentale à l'heure où on s'interroge sur la viabilité des régimes de pension. Sa question, c'est « Avez-vous l'intention d'être vieux longtemps? »
Oui, ben, vivre plus longtemps, mon cher François, c'est pas gratuit. Hein? C'est pas gratuit, c'est même extrêmement coûteux. Alors, c'est pas le moindre des paradoxes d'un soi-disant progrès. Mourir très tard, c'est pas naturel et c'est pas un droit. Faut quand même commencer par dire ça.
C'est pas un droit.
Alors, mais non, c'est pas un droit. Et alors on pourrait penser que c'en est un, mais qu'est-ce qui le fonde ? Rien. Alors, quel regard économique poser sur cette question avant de s'engouffrer dans les tunnels de la philosophie où nous n'irons pas puisque ça n'est pas notre rôle ? Mais ça a intéressé Rudy Lecourt dans un article de La Presse du 12 janvier que je vous lis. Nous vivons de plus en plus vieux à cause des progrès de la médecine, d'une meilleure hygiène de vie et de la baisse prononcée du tabagisme. Il nous faut donc prévoir davantage de revenus pour les années où nous ne serons plus sur le marché du travail. Au fil des ans, le Canada a mis sur pied un système de revenus de retraite fondé sur trois piliers. La pension universelle de sécurité de la vieillesse, assortie d'un supplément de revenus garantis pour les moins nantis. Le régime de pension du Canada et son pendant, le régime des rentes du Québec, à participation obligatoire et financé moitié-moitié par les employeurs et les employés. Et l'épargne privée, c'est-à-dire les régimes de retraite à prestations déterminées ou à cotisations déterminées, l'épargne retraite à imposition reportée, les comptes d'épargne libres d'impôts et les placements individuels en tout genre. J'espère que vous vous y retrouvez. Ça dépend probablement de votre âge. Mais enfin, plus près, il s'avance. Enfin, excusez-moi, là, je bafouille un peu. C'est la vieillesse, évidemment.
En gros, il y a les gens qui ont les moyens et qui n'ont pas le supplément de revenu garanti. Et il y a les gens qui n'ont pas les moyens et qui ont que la RRQ, le régime de pension et le supplément de revenu garanti.
Je crois que vous avez bien remis les choses à leur place, François, et je vous en remercie. Alors, ces trois piliers subissent des changements depuis quelques années pour tenir compte de la longévité accrue des Canadiens, sur qui repose davantage désormais la responsabilité de financer leurs vieux jours. L'âge d'admissibilité à la PSV sera graduellement porté de 65 à 67 ans, tandis que les prestations du RRQ seront bientôt diminuées pour ceux qui devancent leur retraite, donc qui la prennent avant l'âge de 65 ans, mais augmentées pour ceux qui la retardent. C'est d'ailleurs un mouvement qu'on observe à peu près dans tous les pays en Europe et il est parfaitement logique. Enfin, de plus en plus de promoteurs privés de RPD les transforment en RCD afin de transférer aux participants les risques posés par la baisse des taux obligataires à long terme et l'augmentation de l'espérance de vie, qui ont pour fâcheux résultat de gonfler les coûts de leurs engagements. Et là aussi, c'est une arithmétique de base dont on voit très clairement les effets. Devant cette réalité, plusieurs propositions ont été mises de l'avant pour assurer un revenu décent aux retraités et surtout aux futurs retraités. Pensons à la rente longévité, accessible à compter de 75 ans, recommandée par le comité d'experts sur l'avenir du système de retraite québécois dans le rapport Damour, ou à l'engagement du gouvernement libéral ontarien de créer un complément au RPC. Quatre chercheurs, David Boisclair, Jean-Yves Duclos, Steve Marchand et Pierre-Carl Michaud, ont étudié trois réformes possibles du deuxième pilier du système de retraite canadien en tenant compte du SRG qui diminue à mesure que les autres revenus fiscalisés de retraite augmentent. Outre la rente longévité proposée par le rapport, il se penche sur la bonification du RPC-RRQ suggérée par les économistes albertains Jack Mintz et torontois Thomas Wilson, ainsi que celle plus audacieuse de Michael Wolfson de l'Université d'Ottawa. La proposition Mintz-Wilson vise à porter de 25 à 35% le taux de remplacement du revenu disponible au plafond actuel de 52 500 $ en 2014. Pour financer le tout, le taux de cotisation serait porté de 9,9 à 12,4%, partagé moitié-moitié entre les employeurs et leurs employés. La proposition Wilson double le gain admissible à 105 000 $ en majorant de 9,9 à 13% la cotisation pour la part de revenu de 20 000 à 52 500 $, puis la ramène à 8,3% sur celle qui va jusqu'à 105 000 $ pour laquelle il n'existe aucune cotisation maintenant. Dans leur analyse des trois propositions, les chercheurs tiennent compte de l'espérance de vie, qui varie selon le degré de scolarité. Plusieurs études ont montré sur une base empirique que la probabilité de mourir plus jeune est plus élevée quand on est moins instruit. Un tel constat rend évidemment la rente longévité beaucoup moins attrayante pour cette catégorie de citoyens. Ils risquent de la toucher moins longtemps que des personnes plus instruites pour une période de cotisation comparable. De plus, comme ils se retrouvent en plus grand nombre parmi les bas salariés, l'accès à cette rente les privera d'autant plus du SRG pour lequel ils n'ont pas à cotiser. Le nouveau régime volontaire d'épargne retraite ou le régime enregistré d'épargne retraite ont les mêmes inconvénients par rapport au SRG, à la différence d'un capital accumulé dans un compte d'épargne libre d'impôts qui reste sans effet. La proposition Mintz-Wilson souffre du même inconvénient. Toutefois, sa bonification est plus marquée que la rente longévité dès que le revenu admissible atteint les 40 000 $, seuil à partir duquel disparaît le RCG, puisqu'elle est accessible dès l'âge de 65 ans. Tout ça est touffu et pas touffu, mais technique et condensé, mais une bonne photographie. La proposition Wilson paraît plus intéressante encore. Elle ne modifie pas la situation actuelle en relation avec le RCG pour les revenus de moins de 20 000 $, bien qu'elle touche elle aussi les revenus jusqu'à concurrence de 40 000 $. Elle offre surtout une bien meilleure couverture pour les revenus de la classe moyenne, celle dont le taux de couverture du revenu est le plus faible à la retraite avec le système actuel. Les travaux des quatre chercheurs montrent que toute bonification du régime public de retraite suppose une refonte du SRG. Voilà le point clé. Ils font enfin ressortir en filigrane qu'il faudra tôt ou tard, bonifier le système de retraite actuel, sans quoi de plus en plus de futurs retraités vivront pauvrement, ou pire, au crochet de l'État, c'est-à-dire des contribuables dans la force de l'âge. L'épargne volontaire ne suffit pas, hein, contrairement à beaucoup de paroles prises en ce sens. Il faudra majorer les cotisations obligatoires, tant celles des travailleurs que celles des employeurs. C'est bien de le rappeler pour finir cette lecture, parce qu'on n'y échappera pas.
On fait de quoi, dites-moi ? On est comme ça un beau jour, et puis on entend dire bonjour. Il y a le sang, la chair et le bois, qu'on touche, on espère, c'est comme ça. Il y a le vent, la terre et les lois, qu'on laisse au vestiaire quelquefois. On est fait de quoi, dites-moi, quel effet on fait, à qui et pourquoi, et qu'est-ce que ça fait de savoir tout ça. Il y a la sueur, les rêves et la foi. Parfois on en crève dans les trois. Y'a la peur, la sève et le moi. De rien qui s'achève au détroit. Toute une vie comme ça. Sauter des clôtures, tourner le sablier. Porter son armure, jouer au chevalier. Toute une vie comme ça. Soigner ses blessures, tourner le sablier. Repart d'azur et cage d'escalier. Quoi, dites-moi, y a l'amour là-bas. On est tous autour, on espère tout bas avoir notre tour. Y a le cœur, la tête et le corps qui se font tempête ou s'ignorent. Y a les fleurs, les bêtes et l'aurore derrière les fenêtres où l'on dort. On est fait de quoi, dites-moi. On part comme ça, bonjour. Et puis on se dit, c'est trop court. Autant de mystères que de vie. Il y a le printemps, l'hiver et l'envie d'avoir l'univers copie. Toute une vie comme ça. Sauter des clôtures, tourner le sablier. Porter son armure, jouer au chevalier. Toute une vie comme ça. Soigner ses blessures, tourner le sablier. Repeindre d'azur les cages d'escalier. De quoi, dites-moi, tu de tout de froid, de tout de tout de soi. On est fait de quoi, dites-moi, tu de tout de froid, de jeu de loup de roi. On est fait de quoi, dites-moi, de Dieu de tout de froid, de jeu de loup de roi. On est fait de quoi, dites-moi, de jeu de tout de soi, de jeu de loup de roi.
Catherine Major qui chantait Toute une vie, un choix de Rémi Hermoso qui assure la mise en onde de cette émission et le contrôle de nos activités quotidiennes. Alors, s'il y a quelque chose qui vous déplaît dans cette émission, c'est la faute à Rémi. Voilà, c'est dit. On a parlé de vos cotisations qui augmentaient. Vous avez sans doute l'impression, en regardant votre bulletin de paye, qu'il ne reste plus grand-chose de tout cet argent que votre employeur a versé à votre nom. Eh bien, vous avez tout faux. Sachez qu'au Québec, on ne paie pas beaucoup d'impôts. Bon, vous me direz, je dis n'importe quoi. Eh bien non, Éric Desrosiers, dans Le Devoir, nous rapportait une étude qui est à cet effet-là. Son texte s'intitule « Le fardeau fiscal au Québec serait beaucoup moins lourd qu'on le dit » et ça a été publié donc aujourd'hui même. Contrairement à un certain discours qui fait du Québec un enfer fiscal, les Québécois ne versent en moyenne que le quart de leurs revenus totaux en impôts, cotisations sociales et taxes de toutes sortes, conclut une étude. Le revenu total moyen des contribuables au Québec s'élevait à 40 600 $ en 2011, rapporte une étude d'une soixantaine de pages qui doit être dévoilée jeudi par l'Institut de recherche en économie contemporaine, l'IREC, est présenté comme le portrait le plus précis et le plus détaillé jamais produit sur la question. Environ 17 400 $ ou 42 % sont allés dans les poches des gouvernements sous forme d'impôts fédéral et provincial, de cotisations sociales, ça c'est l'assurance-emploi, l'assurance parentale, le régime des rentes, et de taxes à la consommation. Cela s'accompagnait toutefois aussi de diverses déductions et crédits d'impôts totalisant 7 700 $ et réduisant la ponction fiscale à seulement 24 % du revenu total, laissant par conséquent 76 % de vos revenus totaux dans les poches de monsieur et madame tout le monde. Ces moyennes cachent de grandes variations entre les niveaux de revenus, mais ces variations ne remettent pas fondamentalement en cause le constat général, précise l'auteur de l'étude, Nicolas Zorn, chercheur associé à la chaire de recherche en économie politique internationale et comparée, le CREPIC. L'effort fiscal va d'une moyenne de 10 % pour le cinquième des contribuables les plus pauvres à 33 % pour le quintile des plus riches. Il fallait gagner plus de 250 000 $ par année pour atteindre la limite extrême de 39 %. Nous ne vivons pas dans l'enfer fiscal que certains décrivent, où, à les croire, les revenus sont imposés à hauteur de 50 %, à quoi s'ajouteraient tant de taxes et de cotisations que les contribuables sembleraient écrasés par un fardeau fiscal beaucoup trop lourd, en conclut l'auteur de l'étude. Un autre mythe que la recherche dit déboulonner est l'idée selon laquelle de 40 à 50 % des particuliers ne paient pas d'impôts. En réalité, près de 37 % des contribuables ne paient pas d'impôts sur le revenu, mais cette proportion descend à 17 % lorsqu'on prend en compte les cotisations sociales et tombe pratiquement à zéro lorsqu'on y ajoute les taxes à la consommation. Tous ces chiffres ne sont que le portrait d'un moment bien précis, dans le temps, alors que pour prendre la réalité, il faudrait aussi pouvoir regarder le parcours de vie de chaque personne, a expliqué un entretien téléphonique au Devoir, Nicolas Zorn. Dans les rangs de ceux qui ne paient pas d'impôts aussi peu, se trouvent entre autres des étudiants sans le sou qui entreront bientôt sur le marché du travail et payeront des impôts, ou des retraités qui en ont payé durant toute leur vie professionnelle. Le professionnel qui fait un plus gros salaire et paye plus d'impôts que le garagiste est aussi entré sur le marché du travail beaucoup plus tard que l'autre. Dans son étude, le chercheur n'a pas pu tenir compte des taxes foncières, mais il les juge trop petites pour remettre en cause ses principales conclusions. Dans son ensemble, le système fiscal au Québec est manifestement progressif, dit-il. Il note au passage que les moins bien nantis ne sont pas les seuls à bénéficier des transferts gouvernementaux, bien qu'ils comptent pour plus de la moitié des revenus totaux des 40 % les plus pauvres. L'étude de l'IREC se limite au cas du Québec et ne fait aucune comparaison formelle avec ses voisins. Nicolas Zorn ne cache pas cependant son agacement lorsqu'il entend des voix se plaindre de la situation au Québec. C'est vrai que notre fardeau fiscal est plus élevé qu'en Ontario ou aux États-Unis. Mais nos garderies, l'électricité, nos assurances auto et nos assurances médicaments nous coûtent aussi moins cher. Les inégalités de revenus sont moins élevées également, ce qui mène à moins de criminalité et à une meilleure cohésion sociale. Je crois qu'il ne faut pas seulement regarder le niveau des impôts, mais aussi à quoi ils servent. Voilà, je n'ai pas pu résister quand j'ai lu ce texte-là. Il fallait que je vous le lise.
Une petite remarque quand même. Je suis un peu étonné qu'on n'ait pas tenu compte de la taxe foncière en estimant qu'elle était négligeable. Je n'ai pas tellement cette impression-là quand je reçois la mienne.
Ah, mais oui, c'est parce que vous vivez dans une trop grosse maison, voilà. Quelques brèves, et je commence tout de suite avec une nouvelle qui est tombée ce matin, une grosse nouvelle, puisque Target va fermer tous ses magasins au Canada. Ça, c'est 133 magasins qui vont fermer, 17 600 employés sur le carreau. Target a réalisé qu'avec son modèle d'affaires actuel, elle ne pourrait pas devenir rentable avant 2021. C'est tout simplement trop loin pour elle.
Je ne résiste pas à vous citer une prévision qui s'est révélée juste, même si elle n'était pas très difficile à faire, mais les analystes avaient prévu que le marché résidentiel de Québec connaîtrait une baisse en 2014. Et bien malheureusement, c'est vrai. Bilan annuel, par exemple, les mises en chantier baissent de 5% hein, comparativement à 2013, c'est beaucoup.
Tiens, Standard & Poor's, vous vous rappelez Standard & Poor's, qui est une agence de notation qui dit quel est un bon débiteur, qui n'est pas un bon débiteur et qui, notamment, peut coûter tellement cher au gouvernement en changeant leur note de crédit. Eh bien, Standard & Poor's serait sur le point de capituler devant le gouvernement américain qui lui reproche d'avoir recommandé l'achat des papiers commerciaux à valeur adossée, les fameux subprimes qui ont coûté tellement cher en 2008. Alors, ça pourrait lui coûter plusieurs milliards de dollars, ou en tout cas, au moins sa rentabilité de cette année. C'est donc quelque chose à suivre.
Quelques chiffres sur ce qu'on appelle le pire défi économique en 25 ans qui concerne l'Alberta, et Dieu sait qu'on en parle en ce moment. Eh bien, M. Prentice a estimé que si le prix du baril de pétrole continue à tourner autour des 50 dollars le baril pendant un an, le manque à gagner pour l'Alberta sera de 10 milliards de dollars.
Ouh. Vous aimez rencontrer du beau monde, manger des petits fours avec le doigt en l'air, tout ça en contemplant des montagnes magnifiques. Eh bien, sachez que Davos vous attend, puisque c'est la semaine prochaine que le Forum économique mondial se tiendra à Davos. Le Gotha du monde économique, il sera du monde économique et politique, faut-il dire. C'est devenu un incontournable. Évidemment, ça risque d'être difficile pour vous d'y entrer si vous n'êtes qu'une personne ordinaire, c'est-à-dire un mammifère non doué d'un passeport diplomatique. La place va être changée en place forte, surtout ces temps-ci.
Un joli coup pour Nissan qui vient de s'allier avec la NASA. Alors, pourquoi faire? Eh bien, former un partenariat recherche-développement. Et cette entente portera sur le développement et la commercialisation, tenez-vous bien, de systèmes de voitures autonomes avancés. Donc, de la concurrence pour Google, ce qui n'est pas mauvais, puisqu'ils ne savent pas trop ce que c'est. Et puis, on espère que ces voitures autonomes arriveront vite sur le marché et qu'elles... nous empêcheront d'avoir ces comédies affreuses qui consistent à se glisser dans la circulation.
On le sait, le Congrès des États-Unis est maintenant l'affaire des Républicains. Alors, on a commencé à examiner la loi Dodd-Frank, qui est la loi qui avait été adoptée après la crise de 2008, justement, pour réglementer les secteurs financiers, les banques, les empêcher de faire des opérations commerciales à trop haut risque. C'est une loi très, très volumineuse. Le secteur des banques qui appuie les Républicains a obtenu que ceux-ci se penchent donc sur cette loi-là dans le but d'en abroger de grands pas, ce qui voudrait dire qu'on pourrait revenir à la belle jungle qui présidait au monde financier aux États-Unis en 2008. C'est inquiétant.
On a très tôt les chiffres de l'emploi pour l'année 2014. Malheureusement, le marché du travail au Québec est celui qui a le plus contre-performé au Canada. On le savait, mais c'est bien confirmé.
Et voilà, vous l'entendez, c'est déjà la fin de cette première partie de l'émission. On se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la deuxième partie.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième partie, et cette fois-ci, on s'intéresse carrément au monde, puisque rien n'est trop grand pour Kiosque Magazine, et on commence par la Russie.
Mais oui, qui justement, étant le plus grand pays du monde, mérite qu'on s'intéresse à elle. Deuxième est le Canada quand même. Bon, l'effondrement du rouble, la baisse des cours du pétrole et les sanctions économiques s'abattent sur la Russie comme trois fléaux qui risquent de faire vaciller la planète entière. Alors, il faut s'intéresser à cette question. C'est une des plus préoccupantes de ce début d'année. Et j'ai trouvé dans la tribune du 10 janvier une analyse très intéressante de Harold James que je vous lis. La crise qui affecte actuellement la Russie, et en particulier l'effondrement du rouble, révèle toute la fragilité non seulement de l'économie russe, mais également de l'ordre international existant, ainsi que des fondations de la pensée contemporaine autour de la viabilité économique et politique. En effet, la crise russe n'était pas censée se produire, et l'isolement croissant du pays ôte à la Russie toute influence véritable sur les mécanismes actuels de gouvernance mondiale. Jusqu'en 2014, la Russie se portait relativement bien à tous ses égards. Aucun signal d'alarme ne semblait retentir. En 2013, la dette extérieure du secteur public s'élevait à seulement 3,8%. La dette extérieure totale des secteurs publics et privés atteignait un niveau raisonnable de 30,2% du produit intérieur brut. Au printemps dernier, les réserves de change du pays s'élevaient à un confortable montant, 472 milliards de dollars, soutenu par un excédent de balance courante substantiel. Enfin, selon la Banque centrale de Russie, le total des actifs russes à l'étranger atteignait 1400 milliards de dollars, supérieur à un passif de 1200 milliards de dollars. Que s'est-il donc passé? L'une des difficultés réside sans doute dans l'impossibilité de mobiliser facilement ces actifs en période de crise. Comme l'ont récemment souligné plusieurs économistes de la Banque des règlements internationaux, en premier lieu desquels Claudio Borio et Yung Sang-shin, Les soldes d'actifs financiers reflètent bien souvent une utilisation du secteur étranger destinée à créer davantage d'intermédiation, système propice à une fuite des capitaux à grande échelle. Ceci semble particulièrement se vérifier s'agissant de la Russie. En d'autres termes, les entreprises russes utilisent les capitaux qu'elles lèvent à l'étranger pour accumuler des actifs qu'ils ne rapatrient ensuite pas nécessairement. Ce type de contexte favorise la survenance d'événements malheureux, même pour des États disposant de larges réserves et excédant de balances courantes. Après tout, les entreprises sont susceptibles d'assécher rapidement les réserves plutôt que d'accéder à leurs propres actifs à l'étranger lorsqu'il leur faut procéder à des paiements. Les économistes connaissent bien le trilemme classique de la politique macroéconomique. C'est un néologisme, hein, bien entendu. Les États ne peuvent, dans le même temps, disposer de taux de change fixe, de comptes de capitaux ouverts et d'une politique monétaire indépendante. Il existe à cela un équivalent dans le secteur financier, au sein duquel flux de capitaux et stabilité du secteur financier sont incompatibles. Et lorsqu'apparaissent au grand jour des difficultés dans la sécurité internationale, comme dans le cadre de la crise russe actuelle, la liberté de mouvement des capitaux génère une instabilité d'autant plus importante. Une situation similaire est survenue au cours des années qui précèdent l'explosion de la Première Guerre mondiale. À l'époque, la proximité des relations diplomatiques entre la France et l'Allemagne facilitait la circulation de montants de capitaux substantiels. Mais les périodes de tensions internationales, telles que la crise marocaine de 1911, suscitèrent des attaques spéculatives qui mirent en lumière l'isolement croissant de l'Allemagne. Dans l'entre-deux-guerres, et en particulier dans les années 1930, caractérisées par la désintégration de l'ordre sécuritaire mondial, ces attaques spéculatives devinrent un véritable outil de manipulation politique. En exerçant une pression financière sur la France, l'Allemagne nazie espéra notamment qu'elle induirait des crises budgétaires et de crédit qui contraindraient le pays à réduire ses dépenses militaires. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Et puis, c'est les problèmes des États-Unis qui ont entraîné l'Allemagne dans leur chute d'une façon qui n'avait pas du tout été prévue. L'une des principales caractéristiques de l'ordre mondial instauré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale réside dans l'interaction qui fut établie entre les systèmes de gouvernance économique et sécuritaire, les cinq mêmes puissances occupant des sièges permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et au cours de la dernière génération du comité exécutif du Fonds monétaire international. Ceci contribua à contrer les attaques spéculatives motivées par des raisons politiques, ainsi qu'à restaurer une stabilité financière et monétaire mondiale. L'URSS ne visera jamais l'adhésion au FMI. La Russie, elle, le fera en 1990, obtenant un siège au comité exécutif. Elle sera par la suite intégrée au G8, ainsi qu'au dernièrement constitué G20, avant évidemment d'en être exclue récemment. Voici désormais la Russie exclue, au moins temporairement, du G8, le pays ayant effectivement été rétrogradé au statut de pays observateur lors du dernier rassemblement du G20 à Brisbane. Autrement dit, l'ordre mondial est aujourd'hui refaçonné, dans lequel évidemment la Russie perd sa place. C'est une décision aussi absurde qu'inefficace et qui ne présente que des inconvénients. On ne gagne...
qui ne se fonde pas sur la réalité, ne serait-ce qu'il y a 300 millions de personnes qui sont laissées sur la touche.
Et on ne gagne rien à humilier quelqu'un à qui on a reproché, reproché quelque chose. L'élite politique russe aspirait à l'émergence d'un nouveau mécanisme alternatif de gouvernance économique mondiale sous-tendu par les principales économies émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ce qu'on appelle les BRICS était censé contrebalancer un certain nombre d'institutions internationales dominées par l'Occident, en premier lieu desquelles le FMI ainsi qu'un système monétaire centré sur le dollar. Dans une certaine mesure, ils y sont parvenus. Pour autant, l'impact de cette démarche se révèle à ce jour limité. Et vous voyez, cette limite, elle est le témoin, elle est le signe de ce que ça va aller de plus en plus mal. Et si on s'obstine à continuer cette mécanique d'isolement, eh bien, on en subira les conséquences. Et ce n'est pas la Russie qui sera le grand perdant, c'est l'ensemble de la communauté. On ne peut pas jouer et être dans la globalisation malgré nous, entre guillemets, et jouer l'isolement d'un pays, quelles que soient les raisons de le faire. Voilà, moi je crois que c'est vraiment un problème très grave duquel on ne parle pas assez. À mon sens, ça a beaucoup plus d'importance que la chute des cours du pétrole, bien que ce soit évidemment un des facteurs d'appauvrissement de la Russie dans ces temps difficiles. Mais encore une fois, messieurs les Européens, songez à intégrer la Russie avec vous. C'est la seule façon de recréer un ordre mondial plus stable qu'il n'est aujourd'hui.
D'autant que dans ces manœuvres d'ostracisme de la Russie, des grandes institutions économiques internationales, il y a une volonté finalement d'écarter le régime politique actuel qui dirige les Russes, nommons-le Vladimir Poutine, alors qu'il y a un taux de... Ça fait exactement le contraire. Il rassemble la population derrière lui.
80% de gens satisfaits.
C'est presque
Russie.
Soviétique. De la Russie, on passe à l'Arabie saoudite, que tous les pays producteurs de pétrole honnissent ces temps-ci, puisque l'Arabie saoudite a décidé qu'elle ne remontait pas ses prix ou ne diminuait pas sa production pour que les prix du pétrole remontent partout dans le monde. Et c'est à elle qu'on le reproche. Bizarrement, c'est toujours à elle qu'on le reproche. Un texte paru dans Le Monde, qui a été repris dans Le Devoir, un texte de Jean-Michel Béza, intitulé « Arabie saoudite, les moyens de la patience ». Vous allez voir, c'est fascinant. Depuis que les cours du pétrole ont entamé leur chute, les regards se tournent vers l'Arabie saoudite. Si le royaume wahhabite n'a plus le pouvoir de faire trembler le monde comme en 1973, quand sa décision de priver les États-Unis de brut pour leur soutien à Israël avait plongé la planète dans la première grande crise de l'après-guerre, le royaume est le seul pays à pouvoir jouer le rôle de swing producer, producteur d'appoint, en cas de défaillance d'un des 11 autres membres de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. Sans clair, ça veut dire « Oups, il y a une révolution en Iran, ben pas grave, on va appeler l'Arabie saoudite qui va vendre plus de pétrole. Le régime libyen s'écroule, pas de problème, l'Arabie saoudite est là. » Eh bien, c'est le seul pays qui peut faire ça sur Terre actuellement. Le seul à être capable de mettre 2,5 millions de barils supplémentaires sur le marché chaque jour, donc pour éviter pénurie et flambée des prix. Fin novembre, elle a encore montré sa puissance au sommet de l'OPEP en refusant de resserrer les vannes et en laissant les cours s'effondrer pour essayer de faire plier les pétroliers américains qui produisent à des prix bien plus élevés. Tombé autour des 50 $ américains le baril, de Brent a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis son pic de juin alors qu'il était à 112 $. Mais la pétromonarchie a ses fragilités. L'aggravation de l'état de santé du roi Abdallah, 90 ans, a relancé les inquiétudes alors que l'année 2014 s'est mal terminée. Bien orientée au cours des trois premiers trimestres, la bourse de Riyad a terminé l'année en perte. Le budget sera en déficit de 14 milliards de dollars alors qu'il était initialement prévu à l'équilibre. Avec la chute des cours, le pays va devoir gérer une perte de recettes considérable. Les hydrocarbures représentent 90 % de ses ressources budgétaires. Si le baril se stabilise à 60 $ américains en moyenne sur l'année, elle n'encaissera que la moitié de ses recettes de 2013, qui avaient atteint 276 milliards. Riyad a déjà pris en compte la dégringolade des cours du brut en annonçant, le 25 décembre, un budget en déficit de 38,5 milliards. Ça, c'est 230 milliards de dépenses et 191 milliards de recettes, un niveau sans précédent dans l'histoire du royaume. Mais le pays a les poches profondes, puisqu'on estime ses réserves de devises à quelque 750 milliards de dollars. C'est une somme colossale. Avant d'être hospitalisé, le roi Abdallah avait autorisé le gouvernement à y puiser ou à emprunter sur les marchés pour combler le déficit. En 2011, alors que le monde arabe était secoué par les révolutions de la Tunisie, au Yémen et de l'Égypte à la Libye et à Bahreïn, il n'avait pas hésité, de retour d'un séjour de 3 mois à l'étranger pour raisons médicales, à puiser 130 milliards dans les caisses afin d'acheter la paix sociale. Je rappelle ici que c'est quand même une monarchie absolue, le royaume d'Arabie saoudite, mais probablement une des plus répressives sur Terre. Alors, à ce moment-là, on avait payé des allocations de chômage, de l'aide au logement, de la santé, de l'éducation, et évité ainsi la contagion révolutionnaire. Cette situation instable n'a pas disparu, notamment avec l'essor des groupes djihadistes en Syrie et en Irak, hier financés par les Saoudiens, aujourd'hui combattus par les mêmes Saoudiens au sein de la coalition internationale contre l'organisation autoproclamée État islamique. Il a encore largement les moyens d'une telle munificence après plusieurs années de vache grasse, a récemment souligné le ministre des Finances Ibrahim Al-Assaf, et notamment le financement des programmes de développement de l'éducation et de la santé et des services sociaux et la création davantage d'emplois pour les citoyens, alors que la frustration de la jeunesse est grande face à un chômage endémique. Avec la baisse des prix pétroliers, nous avons considérablement revu le projet de budget, mais nous maintenons nos projets de développement et nous avons la capacité de supporter cette baisse. Pour autant, Riyad n'a pas renoncé à sa politique, conserver ses parts de marché, notamment face aux producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis, quitte à laisser s'effondrer les prix, une situation que les dirigeants saoudiens jugent plus préjudiciable aux producteurs américains qu'à la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco. Il y a quelques jours encore, le ministre saoudien du pétrole, Ali Al-Naimi, répétait que l'OPEP ne réduirait pas sa production, même si le prix tombait à 20 $ américains le baril. Tout le monde ne partage pas cette ligne. Et certaines voix se font entendre dans l'entourage du roi pour juger cette politique des prix dangereuse pour le royaume. C'est quelque chose avec la disparition éventuelle du roi Abdallah qui va être à suivre. La situation interne en Arabie saoudite, qui est quand même un régime politique très stable à l'échelle des régimes politiques du Moyen-Orient, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui va advenir de ça? Swing 2006 par Christine Tassin et les Imposteurs. J'ai dit au début de ce segment qu'on s'éloignait de nos préoccupations quotidiennes, qu'on allait loin, loin. Eh bien, je vous amène encore plus loin dans un autre monde, dans le monde des valeurs mobilières. Ouh!
Oui, alors écoutez, je tremble à l'idée du voyage que vous voulez nous faire faire. Les analystes financiers sont payés pour donner des avis, des conseils et faire des prévisions. Alors, peut-être qu'un jour, on va les charger d'une obligation de résultat. Alors là, ils risquent d'en donner beaucoup moins. Bon, en attendant, voyons ce que l'un d'entre eux imagine, Richard Dufour, dans la presse du 11 janvier. Chaque dimanche, un financier répond à nos questions. Il donne sa lecture des marchés, offre son point de vue sur la bourse et lance quelques conseils d'investissement. Cette semaine, Pierre Ouimet de la firme UBS à Montréal. Donc c'est un jeu de questions et de réponses. Quel a été l'événement le plus significatif des derniers jours en bourse? Il y en a toujours une multitude, mais en début de mois, on se préoccupe davantage des chiffres sur l'emploi aux États-Unis, qui ont confirmé vendredi une reprise soutenue dans l'économie américaine. Dans cette perspective, la Réserve fédérale devrait maintenir son intention de normaliser les taux d'intérêt au cours de la première moitié de 2015. On s'attarde aussi à la baisse soutenue du prix du pétrole et son impact sur les perspectives inflationnistes et sur la conjoncture de l'économie canadienne. La récente baisse dépasse de loin les attentes et a entraîné à la baisse les taux d'intérêt dans les pays développés qui enregistrent maintenant des chiffres d'inflation négatifs. Ces craintes déflationnistes ont également alimenté une certaine anxiété dans les marchés financiers. Pour ce qui est de l'économie canadienne, la baisse du cours du pétrole pourrait retrancher jusqu'à 0,5% sur la croissance anticipée en 2015, causer une chute des profits corporatifs et entraîner un retour au déficit sur notre balance commerciale, avec des conséquences négatives pour le dollar canadien. Sur la réponse à cette première question, je donnerais largement un zéro, puisqu'on pourrait dire qu'il ne répond absolument rien qui ne soit une évidence monumentale. Voyons voir la deuxième question. Quels indicateurs suivez-vous le plus attentivement ? Oui, je précise, c'est moi qui commentais, hein, pas le journaliste. Nous suivons de très près la conjoncture économique mondiale et en particulier l'Europe. Nous avons bon espoir que la reprise américaine est bien amorcée, mais nous cherchons des signes encourageants en provenance de la zone euro. Nous ne croyons pas que la croissance risque de s'emballer, mais nous entrevoyons une amélioration graduelle de la conjoncture suite aux mesures de stimulus de la Banque Centrale Européenne, de la baisse du prix du pétrole, du fléchissement de l'euro et d'un regain de confiance des entreprises. Ça me rappelle lorsqu'on faisait faire la météo à Alphonse Allais qui disait « il va pleuvoir à moins qu'il ne fasse beau ». Bon,
oui,
passons.
Mais si vous rencontrez un jour un financier qui vous dit « les affaires vont aller mal dans les prochaines années », c'est parce que ce n'est pas un financier. Son métier à lui, c'est de faire de l'argent avec le vôtre et donc de vous inciter à investir.
Comme vous avez raison de le rappeler. Enfin, on va essayer de voir la troisième question si elle nous amène un peu plus loin. Que feriez-vous avec plusieurs milliers de dollars à investir ? Ah ben voilà une vraie question. On va voir s'il y a une vraie réponse. Nous croyons toujours que les actifs à risque doivent être privilégiés. Plusieurs facteurs militent en faveur d'une croissance soutenue de la conjoncture mondiale, telles que la baisse des devises, euro, yen, dollar canadien, vis-à-vis du dollar américain, les politiques monétaires très favorables, la baisse du prix du pétrole qui, à elle seule, devrait ajouter environ 1% au PIB des pays consommateurs et le bas niveau des taux d'intérêt. Pour le moment, nous sommes favorables au marché des actions américaines. Du côté des titres à revenus fixes, nous mettons l'accent sur les titres de crédit coopératif de haute qualité au détriment des titres de dette souveraine. Pour ce qui est des secteurs boursiers, nous croyons que 2015 pourrait surprendre. Un retour vers les secteurs cycliques est à prévoir au fur et à mesure que les craintes déflationnistes s'estompent. Alors que les secteurs défensifs ont bien fait en 2014, les évaluations sont devenues difficiles à justifier. On s'attend donc à une rotation vers les titres dans l'énergie, les métaux, les matériaux de base et les sociétés industrielles au cours de l'année. Nous restons cependant prudents dans la mise en place de cette stratégie, préférant attendre une stabilisation des marchés et une reprise des anticipations inflationnistes. L'honnêteté m'oblige à dire qu'en préparant cette émission, je suis tombé sur une analyse qui disait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas retourner aux valeurs cycliques, que les titres boursiers aux États-Unis allaient probablement s'effondrer, et donc il fallait faire exactement l'inverse. Bon, enfin, c'est toujours pareil, un prévisionniste chasse l'autre. Voyons voir la quatrième question, encore plus intéressante. Quel placement évitez-vous à tout prix ? Nous évitons les obligations souveraines ou corporatives de longue échéance. Moi, je suis un peu frappé par un conseil de cette nature, parce que dans une obligation souveraine, vous avez quand même un taux garanti, a fortiori s'il est à longue échéance. Je trouve que dans un portefeuille, c'est quelque chose qu'il faut mettre à côté d'autres choses plus spéculatives.
Mais dans ce type de placement-là aussi, vous n'avez pas besoin d'un conseiller financier.
Eh oui, ça, j'oubliais ça, pas de commission. Tiens, ça les rend encore plus intéressantes, ces obligations. Nous ne croyons pas que le cycle économique tire à sa fin et que les risques de déflation vont s'accentuer. Au contraire, nous avons tout à craindre d'une légère reprise des attentes, amusant lapsus, inflationniste, ce qui pourrait entraîner à la hausse les taux d'intérêt. Les taux d'obligations à long terme sont à des niveaux anormalement bas. Historiquement, les taux sur les obligations 10 ans du Trésor américain ont évolué au même niveau que le taux de croissance nominale du PNB, qui se situe aujourd'hui entre 4,5 et 5%. Les taux courants des obligations du Trésor américain 10 ans se situent à environ 2%, bien en deçà des normes historiques. Nous évitons également la dette et les actions des pays émergents ayant un endettement élevé, particulièrement en devises étrangères et surtout en dollars américains. Moi, je veux bien, mais enfin, ça me paraît qu'il y a des contradictions dans cette... Enfin, je ne vais pas aller trop loin dans le développement parce que ça nous éviterait de poser la cinquième question. Qu'est-ce que les marchés sous-estiment le plus ? Nous croyons que les marchés sous-estiment le potentiel de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. Il y a beaucoup de complaisance dans les marchés à revenus fixes. Lorsque la Fed se verra contrainte de normaliser son taux directeur, le marché obligataire réagira et les taux à long terme s'ajusteront, peut-être après, avec un peu de retard, mais inévitablement. Ben alors, je croyais qu'on venait de nous dire qu'il ne fallait pas investir dans le marché obligataire. Je ne comprends plus. Dans ce contexte, les attentes déflationnistes se dissiperont rapidement. Les taux d'utilisation continueront d'augmenter, les surplus de main-d'œuvre vont diminuer et la pression à la hausse sur les prix se fera sentir, ce qui entraînera les taux à long terme à la hausse. Nous croyons que la phase de croissance du cycle économique actuel ne fait que débuter. Les perspectives à l'extérieur des États-Unis sont moins solides, mais nous entrevoyons quand même une légère amélioration par rapport à 2014. Moi, je suis frappé dans tout cet aspect prédictif du manque de base dans la réflexion. Nous entrevoyons, nous croyons qu'il semblerait très bien, parfait, et puis moi, je veux bien, mais enfin, j'aimerais bien quand même que tout ça soit assis sur quelque chose, sur une réflexion, sur des choses un peu concrètes, mais je ne les vois pas beaucoup.
Et peut-être sur une conclusion ferme, mais ça, ce serait obliger les conseillers financiers à finalement se mouiller pour vrai et à se compromettre en faveur de rendements promis. Ils le feront jamais.
À jamais.
Quelques brèves en terminant. Je commence en vous parlant de pétrole. Encore, vous allez dire que je suis monomaniaque avec le pétrole. Juste un mot pour vous dire que ça y est, la baisse du baril a atteint l'économie albertaine sérieusement puisque Suncor va supprimer au-dessus de 1000 emplois, couper 1 milliard dans ses investissements, tout ça en Alberta. Shell a annoncé qu'elle faisait également des coupes. Les grands projets d'exploitation des sables bitumineux, effectivement, sont mis au ralenti. Ceux qui ne sont pas déjà approuvés s'entendent.
Il ne vous a pas échappé qu'il est en train de naître un Charlie Business assez dégoûtant. J'étais frappé ce matin en regardant RDI de voir une dame sortir sa collection complète de Charlie Hebdo et de la mettre en vente pour 15 000 dollars. Une centaine de numéros, ça fait quand même assez cher par rapport au nominal. Et lorsqu'on lui demandait si ça la gênait pas de faire ça, elle répondait pas du tout. Je suis là pour faire des affaires, j'ai pas l'impression de léser qui que ce soit. C'est quand même profiter de la mort des gens pour faire quelque chose de pas très très louable. Enfin, moi, j'irai rien lui acheter. Hein.
Effectivement. Une bonne nouvelle, tiens, il n'y en a pas beaucoup en économie, on va en profiter. La Voie maritime du Saint-Laurent, dans son rapport, a signalé que l'année 2014 avait été la meilleure des six dernières en termes de volume. On a énormément amélioré les ventes de grains, de transport général et même de vrac. Donc, tout va bien pour la Voie maritime. Mais je rappelle que c'est quand même beaucoup moins que ce que c'était en 1970 quand les Russes achetaient notre récolte de blé et que le fer de la côte nord se transitait jusque sur les Grands Lacs.
On se lamentait tout à l'heure sur le taux de chômage au Québec qui malheureusement ne se stabilise pas. Ce n'est pas le cas pour nos grands voisins puisque leur taux de chômage chute à 5,6%. Il a encore reculé en décembre. C'est le plus bas niveau depuis juin 2008. Et donc, 2014 sera pour l'emploi un très grand cru en termes de création d'emplois.
Êtes-vous du genre à avoir une carte Air Miles, un plan de fidélisation quelconque là, qui vous permet de ramasser des points qui éventuellement vont vous permettre de découvrir le monde? Eh bien, dans la presse, il y a eu un texte très intéressant de une collaboration spéciale de Laurence Niozzi qui s'est demandé, mais combien ça me coûterait en dépenses de consommation pour aller à Paris, voilà, avec mes points? Eh bien, par exemple, avec une carte Air Miles Mastercard BMO, eh bien, sachez qu'il faut dépenser 75 375 $ pour avoir assez de points pour aller à Paris. Ça peut aller jusqu'à 100 500 $ avec Mastercard BMO Air Miles ou alors 35 000 $ avec Aéroplan Plus American Express, mais là, il y a des frais annuels de 120 $ Et finalement, pour 17 000 $ de dépenses, vous allez à Paris avec une carte Aéroplan American Express, mais là, il y a des frais annuels de 499 $ Alors, est-ce que c'est de l'économie?
C'est pas sûr. Tiens, on n'a pas parlé d'immobilier depuis un certain temps. Alors, vous savez, l'immobilier, c'est comme les prévisions, c'est très amusant. Vous avez un article pour dire que ça baisse en face d'un autre qui vous explique que ça monte et donc on ne s'y retrouve jamais. Alors, quand même, j'ai été regarder à la Chambre immobilière du Grand Montréal qui a publié les plus récentes statistiques du marché pour ce qui est de la région métropolitaine de Montréal. Et je vous donne les chiffres. 2203 ventes résidentielles ont été réalisées au cours du mois de décembre 2014. Et c'est quand même une hausse de 9% par rapport à décembre 2013. Donc il semblerait que statistiquement, ça soit quand même en train de monter. Et alors, sur le plan géographique, c'est la banlieue nord qui est en tête.
Alors, je jette le chaud et le froid. Je vous ai donné une bonne nouvelle. Je vous en donne une inquiétante, rapportée par Luc Olinga de l'agence France Presse. Il y a une nouvelle bulle qui se développe aux États-Unis, celle des prêts automobiles. Il faut savoir que les ventes d'auto vont très bien aux États-Unis parce que le crédit est très facile en matière automobile. Et le niveau d'endettement des Américains à cet égard-là est inquiétant et ça a justement été converti en papiers commerciaux à valeur adossée que s'arrachent les banques actuellement. Alors, ce sera un dossier à suivre. Alors, vous l'entendez, l'indicatif nous signale que c'est déjà la fin de cette émission. Dieu que ça passe vite. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On remercie Rémi Hermoso à la mise en onde. Merci, Éric.
Merci, François. À la semaine prochaine.